Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite France Inter plus de 13 novembre l'enquête. 13 novembre l'enquête, c'est le titre du podcast signé par Sarah Guibaudeau, journaliste au service enquête justice de la rédaction de France Inter. Il y a 4 ans, Paris et Saint-Denis étaient le théâtre d'attentats islamistes qui ont fait 130 victimes. Sarah Guibaudeau a suivi l'enquête judiciaire qui vient de s'achever. Elle a travaillé le sujet, interviews, archives, documents judiciaires à l'appui, une enquête de 9 épisodes qui revient sur cette soirée tragique du 13 novembre. Ce sont ces podcasts qu'on vous propose de découvrir jusqu'au dimanche 17 novembre dans le Énervé Plus et les Nuits d'Inter ce week-end. Ce soir, les deux premiers épisodes de la série. D'abord, retour sur la soirée du 13 novembre, le modus operandi des terroristes et leurs portraits.
13 novembre, l'enquête. Une série en podcast de France Inter.
Il y a des mecs qui sont arrivés et ils ont tiré.
Deux très fortes explosions.
Je suis venu au djihad, j'ai une expérience. Moi, si je veux, je rentre en France et je vais tout péter.
Je suis Sarah Guibaudeau, journaliste à France Inter, et je vous propose de reconstituer le parcours des terroristes de Paris et de Bruxelles. Épisode 1. 13, 11, 15. Tout le monde à Paris se souvient de ce qu'il faisait le soir du 13 novembre. J'habite à peu près à mi-chemin entre le Stade de France et les terrasses du 10e arrondissement. Et je venais de coucher ma fille quand j'ai entendu les sirènes des véhicules de secours. La première chose que j'ai faite, c'est d'appeler la radio et de l'allumer.
Ce que l'on sait, c'est que des coups de feu ont été entendus à 3 endroits différents du 10e et du 11e arrondissement de Paris. Rue de Charonne, justement, 6 corps sont étendus au niveau du numéro 90 et les riverains jettent des draps pour recouvrir ces corps.
Ouais, j'ai simplement vu un homme avec une Kalachnikov qui se baladait et tirait sur les gens au hasard, comme ça.
À France Inter, on ne sauve pas des vies, on n'arrête pas des terroristes. Mais dans un moment comme celui-là, c'est essentiel de savoir ce qui se passe. Alors avec mes collègues, on est tous revenus travailler.
Paris a été attaqué une nouvelle fois il y a 2 heures, 3 attaques simultanées.
Nous, on a réussi à s'enfuir du Bataclan et il y avait plein de gens partout, par terre. Il y a des mecs qui sont arrivés, ils ont tiré en plein dans la foule en criant à la Wakbar. Putain, c'est un enfer!
130 personnes ont été tuées. 493 personnes blessées dans leur chair. Un chiffre auquel il faut ajouter plus de 1200 victimes de blessures psychologiques. Ce soir-là, il règne d'abord une grande confusion.
Je suis chez moi à 21h40 quand je reçois un appel de mon collègue de permanence sur des explosions au Stade de France. Et je reçois quelques minutes après un appel de François Molins qui m'avise de coups de feu dans Paris, sans plus de précision.
La magistrate Camille Hennetier est alors la chef de la section antiterroriste du parquet de Paris. Elle travaille sous les ordres du procureur François Molins.
Et on décide de se retrouver tous les deux rue Bichat, devant le Carillon, où là, on constate bien sûr qu'il y a une fusillade et que des gens sont décédés. Il y a des alertes dans tous les sens. Je me souviens qu'on a un moment l'information comme quoi il y a un retranché rue de la Fontaine-Roi. Ça va occuper les services pendant quelques heures. On a aussi une alerte au Hall un moment. Donc tout le monde est en ébullition et c'est normal. Donc il y a beaucoup de parasitage avec des informations plus ou moins fondées qui arrivent. Et donc une difficulté à avoir une information fiable à ce moment-là et à pouvoir surtout recoller les morceaux entre eux.
Voici ce qu'on sait aujourd'hui. À 21h01, une minute après le coup d'envoi d'un match amical France-Allemagne, 3 jeunes hommes bruns arrivent à pied aux abords du Stade de France. Le premier est vêtu d'un survêtement à bandes rouges aux couleurs du Bayern de Munich. La veste blanche est un peu trop grande et cache comme une bosse au niveau du ventre. Derrière suivent 2 hommes qui portent chacun sur leurs épaules un drapeau allemand, noir, jaune et rouge. Autour, il n'y a plus beaucoup de monde. Les 70 000 spectateurs sont rentrés. Impossible pour les trois hommes, ils n'ont pas de billets. Que font-ils là? Est-ce qu'ils sont arrivés en retard? Ils sont partis en voiture d'un pavillon loué à Bobigny. Deux heures avant, la voiture a fait un trajet jusqu'à l'aéroport de Roissy, qui reste inexpliqué. Puis Salah Abdeslam, un jeune homme de 26 ans qui a grandi en Belgique, les a déposés près du stade. Est-ce qu'ils ont hésité entre plusieurs cibles? Est-ce qu'ils sont là pour faire diversion? On ne sait pas. 21h17, le premier homme au drapeau se fait exploser.
Ici au Stade de France, on a toujours le même schéma avec des Français qui tentent des choses. Là, on peut parler de l'homme.
Dehors, au niveau de la porte D, un conducteur de car de 63 ans est tué par le souffle. Les trois hommes habillés en supporters portent des gilets explosifs. Chacun contient 1 à 2 kilos de TATP, la signature du groupe État islamique, et des centaines d'écrous pour servir de mitraille. Un fil est relié à un bouton poussoir, le long du bras. À 21h20, le deuxième homme au drapeau se fait exploser un peu plus loin, devant la porte H. Plusieurs personnes sont blessées. À l'intérieur, le match continue.
On suit ce match avec vous, Franck Ballanger. On va évoquer un instant ce qui s'est produit il y a quelques minutes. Le stade a entendu des explosions à proximité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, deux très fortes explosions. C'était vraiment pas un pétard. Visiblement, en plus, Jacques, on n'a plus le droit de quitter le Stade de France. Un hélicoptère survole actuellement le Stade de France, là.
Des deux premiers terroristes, il ne reste que des cadavres démembrés. Dans la poche de l'un d'eux, un papier avec le numéro de téléphone du commanditaire en Syrie. Il s'appelle Oussama Attar. Je vous en reparlerai dans quelques épisodes. Sur le parvis du Stade de France, des morceaux de passeports syriens. Ils proviennent d'un lot volé par le groupe État islamique. En fait, les deux hommes sont irakiens. Selon les services de renseignement, le premier a une vingtaine d'années. À sa famille, l'organisation terroriste offrira près de 5000 euros et des moutons. Avant chaque explosion, l'homme qui porte un survêtement du Bayern a passé des coups de téléphone. L'un de ses correspondants est Abdelhamid Abaoud. Il est dans Paris et visiblement, il attendait des nouvelles pour attaquer des terrasses de café. « 21h25, derrière l'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement, une voiture noire s'arrête au milieu de la chaussée, à l'angle de la rue Alibert et de la rue Bichat.
« Il y a des morts ici, à quelques mètres devant nous. Les témoins que j'ai pu rencontrer parlent d'une voiture noire qui est passée et de tirs à l'arme automatique, plusieurs rafales de tirs. »«
Moi, j'étais face à la vide, donc j'ai commencé à avoir les jets de fusillade. J'ai pris l'alerte, j'ai crié dans le restaurant, les gens sont mis sous les tables, on s'est jeté dans les toilettes. »
Trois hommes armés de Kalachnikov prennent pour cible d'abord une voiture qui les gêne, puis les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge. Ils tuent 13 personnes. La voiture repart et s'arrête deux pâtés de maison plus loin, rue de la Fontaine au Roi. À 21h26, sur la vidéosurveillance, on voit deux hommes à pied ouvrir le feu sur les clients du café La Bonne Bière. On distingue mal le troisième tireur devant la pizzeria Casa Nostra, mais son arme crache comme des flammes. Il laisse 5 cadavres. Les trois hommes remontent en voiture et roulent sur près d'1,5 km vers le 11e arrondissement. 10 minutes après, ils dépassent le bar La Belle Équipe. La terrasse est bondée, alors ils font demi-tour et ouvrent le feu. Parmi les 19 personnes tuées, plusieurs fêtaient un anniversaire. Les tireurs ont grandi en Belgique. Le conducteur, celui qui dirige les opérations, c'est Abdelhamid Abaoud. Il est décrit comme très calme, il s'est acharné sur les blessés à terre. Il porte des baskets orange fluo et c'est le seul qui n'a pas de gilet explosif. En Syrie, il était l'un des hommes chargés d'organiser des attentats en Europe. C'est ce que nous verrons dans la suite de ce podcast. Avec lui, ce soir du 13 novembre, il y a Brahim Abdeslam, le grand frère de Salah Abdeslam. Brahim Abdeslam se fait déposer par la voiture, peu avant la place de la Nation, et va s'asseoir en terrasse au comptoir Voltaire. Il est 21h41, poliment, il commande un café qu'il n'attend pas pour déclencher sa ceinture. Seule une moitié du dispositif éclate. Il y a une douzaine de blessés. Au même moment, sur ce même boulevard Voltaire, à 2 km vers le centre de Paris, une Polo noire s'arrête devant le Bataclan. À l'intérieur, trois autres hommes armés de fusils d'assaut. L'un d'eux envoie en Belgique ce SMS « On est parti, on commence ». Puis il jette le téléphone dans une poubelle où un policier le ramassera. Pour Camille Hennetier, c'est la preuve que les attentats sont coordonnés depuis Bruxelles.
Je ne sais pas si c'est un coup de chance, mais en tout cas, il y a un téléphone Samsung qui est trouvé dans cette poubelle avec le fameux message à 21h42, on y va, on commence. Et à partir de l'exploitation de ce téléphone, on va pouvoir remonter tout le réseau par un travail extrêmement complet et de déterminer le caractère coordonné des attaques. On va pouvoir remonter à partir de cette ligne, mais aussi à partir des vidéos des Stades de France où on voit un des kamikazes du Stade de France au téléphone juste avant de se faire exploser. On va pouvoir effectuer des croisements entre les lignes, voir qu'elles sont en contact entre elles et qu'elles sont en contact avec des individus en Belgique.
21h45. Sortis de leur voiture, deux hommes mitraillent le café à l'entrée du Bataclan. Ils font trois premières victimes, puis ils entrent. Le concert du groupe américain Les Eagles of Death Metal affiche complet. 1500 personnes s'en donnent à cœur joie. Parmi elles, David Fritz Göppinger, un jeune barman et photographe de 23 ans.
C'était vraiment un concert très fort. C'était vraiment rock, quoi. La salle est vraiment imprégnée de l'ambiance des musiciens, quoi. Je sors des toilettes qui se trouvent au premier étage du Bataclan et j'entends des claquements, quoi, ce que j'identifie assez vite comme des coups de feu. Le balcon était sidéré, donc on comprenait pas ce qui se passait vraiment. Et je me suis penché en avant pour voir. Et je vois des gens allongés les uns sur les autres, qui fuient les balles.
L'un des vigiles du Bataclan guide les spectateurs vers la sortie de secours. Mais les terroristes ont étudié le plan de la salle. Le troisième tireur s'engouffre par cette issue et ouvre le feu à son tour. Les terroristes tirent en rafale, puis exécutent des spectateurs, un par un. L'un d'eux monte sur la scène, deux autres au balcon, sans doute pour avoir une meilleure vision. Les trois tireurs sont français. Ils ont 23, 28 et 29 ans et sont partis en Syrie à la fin de l'année 2013. C'est à eux que je vais m'intéresser en premier dans cette série. Sami Amimour, un jeune de Drancy, Omar Mostefaï, qui s'était installé à Chartres, et le plus jeune, Foued Mohamed Agad, qui a grandi en Alsace. La première fois que j'ai rencontré David, pour tenter de comprendre le déroulement des faits, il m'avait raconté cette scène.
Foued, je crois qu'il s'appelait, était vraiment au niveau du bord du balcon, et c'est lui qui tenait en joue les gens qui étaient dans la fosse. Et je me souviens d'une personne en particulier, il a dit « si tu bouges, je te tue ». Donc il a tué, il a lancé un grand éclat de rire, il a dit « mais je t'avais dit de pas bouger ».
Aujourd'hui, quand je demande à David de décrire les terroristes, il est surtout marqué par leur aspect banal.
Bah, ils sont normaux, quoi. C'est assez étrange, mais ça peut être n'importe qui, quoi. Ça pourrait être... l'un est grand, élancé, un peu sportif, il met des joggings, rasé de près, propre sur eux, en fait. Et je me souviens très bien qu'un des deux portait un parfum assez fort, et je me souviens très bien de sentir ce parfum. Quand il passait juste derrière moi, je le sentais. Donc il y avait cet aspect un peu mec de la vie de tous les jours, quoi.
À l'étage du Bataclan, il n'y a pas d'issue. David se suspend à une fenêtre, mais l'un des terroristes vient le chercher. Il commence à rassembler des otages. 12 minutes après le début de la fusillade, deux policiers de la BAC Nuit entrent dans la salle. Sur la scène, Sami Amimour menace un spectateur de son arme. Les policiers le visent avec leur pistolet.
On entend quelqu'un qui rentre et qui crie à une personne qui se trouve sur scène. Il dit « bouge pas, bouge pas », suivi de, il me semble, trois coups de feu et d'une gigantesque explosion.
Sami Amimour a été touché. Il s'effondre, mais il parvient à déclencher son gilet explosif. À l'étage, David observe les deux autres tireurs.
Il y a un microseconde de sidération, puis l'un demande à l'autre « c'est toi qui as fait ça ?» Donc ils comprennent pas ce qui se passe en fait. Et je me souviens que l'un des deux est assez heureux du départ de son frère en fait. Il exulte, il est content que son frère soit parti de cette manière-là et que oui, il y a une joie en fait.
Sans doute parce qu'il croit que son compagnon est mort en martyr, comme disent les djihadistes. Les deux derniers terroristes se retranchent dans un étroit couloir. C'est la fin du carnage, même s'ils tirent encore à plusieurs reprises, sur la fosse ou par la fenêtre, dehors, sur le passage Saint-Pierre-Amelot. Au Stade de France, le troisième homme, celui qui porte un survêtement du Bayern, s'est un peu éloigné de l'enceinte. À 21h52, Bilal Hatfi, un jeune Belge de 20 ans, se fait exploser à son tour devant un fast-food, blessant plusieurs personnes. C'est la mi-temps, le président François Hollande est évacué de la tribune officielle, mais par sécurité, ordre est donné de poursuivre le match.
Et là, pendant toute cette deuxième mi-temps, on sait qu'on commente ou qu'on essaie de commenter un match qui n'est pas comme les autres.
À 22h30, j'arrive devant le Bataclan. La police a établi un périmètre de sécurité. Je vois passer les camions de la BRI, l'unité d'intervention parisienne. Au premier étage, les deux derniers tireurs sont retranchés avec 11 otages, dont David. Le huis clos va durer plus de 2 heures.
Ils nous parlent de politique, ils nous parlent de Dieu, ils nous parlent de plein de choses comme s'ils allaient réussir à nous convaincre. En fait, je pense qu'ils essaient de justifier leurs actes. Donc ils nous placent devant ces fenêtres comme des boucliers humains. Ils nous donnent l'ordre de surveiller la rue, quoi. Et, bah, dites-nous ce qui se passe dans la rue, sinon si vous ne le dites pas, bah, on vous tue, quoi. On sent que c'est étrange, mais ils sont pas habitués à faire ça, en fait. C'est pas leur truc.
Vous avez l'impression qu'ils improvisent?
Ouais. Là, ils n'étaient pas prêts à aller aussi loin dans une prise d'otage. Eux, pour eux, c'était très simple de rentrer d'une salle de concert, tirer sur tout le monde, se faire exploser, c'était fini. Et ils ne savaient pas qu'ils allaient passer 2h30 avec d'autres humains. Et les négociations sont un peu lunaires, quoi. C'est assez étrange, ils ne savent pas trop quoi demander. Ils veulent une lettre signée de François Hollande qui dit « Retirez toutes les troupes ou arrêtez toutes les actions armées françaises en Syrie ».
Les deux preneurs d'otages, Omar Mostefaï et Foued Mohamed Agad, confisquent les téléphones. Ils veulent joindre une chaîne de télévision, mais ils n'y arrivent pas. David a gravé dans sa mémoire un échange entre les deux terroristes.
Ils se prennent la tête un peu entre eux deux. L'un parle arabe, l'autre parle français. Il lui dit « Non, mais parle arabe. » Le plus grand des deux, en jogging, en fait, au moment où il parle français, il lui dit « On ne devrait pas appeler Souleymane, est-ce qu'on n'appelle pas Souleymane ?» Et donc moi, je me souviens de capter cette information et de me dire, il faut que absolument que je la garde. Et il lui dit, non, on va faire ça à notre sauce. Comme si ce Souleymane était une espèce d'autorité qui leur donnait des ordres.
Qui est ce Souleymane? Est-ce l'un des commanditaires? La question a hanté les enquêteurs comme les journalistes. Et elle n'est pas tranchée. Le problème, c'est qu'Abou Souleymane est un surnom courant au sein du groupe État islamique. Première hypothèse, ce serait l'un des coordinateurs à Bruxelles, l'un des délinquants radicalisés qui a fourni les armes et les faux papiers. Je penche pour cette version. Ce soir-là, les terroristes de Paris sont en relation téléphonique avec la Belgique. La deuxième hypothèse, c'est un autre Abou Souleymane, un Français qui est à la tête d'un groupe de combattants djihadistes en Syrie. Foued Mohamed Agad, le tireur qui rigole en tuant des jeunes de son âge, a fait partie du bataillon de cet Abou Souleymane. Il lui a même confié sa femme avant de partir pour l'Europe. Entre 23h et minuit, il essaye de faire ses adieux. Il envoie un message à sa mère, qui vit en Alsace, et il essaye en vain de joindre sa femme en Syrie. Il ne sent pas venir l'assaut à minuit 19.
Il y a un espèce de coup dans la porte qui est donné. Mostefaï qui m'attrape par l'épaule, qui nous emmène tout au fond du couloir, donc vraiment à l'opposé de la porte, par là où la BRI rentre. Et je me retrouve par terre avec Mostefaï qui décharge sa calache. Il doit vider quelque chose comme 27 coups de feu.
Sur les policiers.
Sur les policiers, ouais. Sur le bouclier Ramsès des policiers. Et je me souviens qu'il jette sa calache et là il se met à chercher quelque chose dans ses poches. Et je me souviens très clairement parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il cherche, quoi? Il cherche un truc dans sa poche et d'un coup, c'était l'explosion de sa ceinture, d'une partie de sa ceinture d'explosif. Ça a soufflé le couloir, en fait. Donc, moi, j'étais par terre, ça m'a soulevé en l'air. Et pendant ce laps de temps-là, les hommes de la BRI progressaient encore. Il fait presque noir, il n'y a plus de lumière, il y a de la fumée partout et d'autres coups de feu surviennent. Et déjà, j'ai un homme de la BRI qui m'attrape par les cheveux et par la veste et qui me jette près de la porte. Et à ce moment-là, je sors.
Les deux terroristes sont morts. Parmi les otages et les policiers, il n'y a que des blessés légers. Le 14 novembre, à 3h du matin, le Bataclan devient une scène de crime. Des corps sont enchevêtrés dans la fosse. 90 spectateurs ont été tués. 7 terroristes sont morts, au moins 3 autres sont en fuite. Après l'attentat suicide du comptoir Voltaire, Abdelhamid Abaoud et le deuxième tireur des terrasses laissent leur voiture et leur kalachnikov près de la porte de Montreuil. À 22h14, ils prennent le métro à Croix-de-Chaveau. Ils n'ont pas de ticket, un voyageur leur explique comment passer les tourniquets en fraude. Abdelhamid Abaoud, le chef du commando, a l'air de plaisanter avec ce passant. Le policier qui exploite la caméra du métro va l'identifier grâce à ses baskets orange, se souvient Camille Hennetier.
Je me souviens parfaitement des baskets orange, mais les baskets orange, en fait, nous, on les voit sur la vidéo du métro Croix-de-Chaveau, où on identifie a posteriori Abaoud, qui porte des baskets orange, ce qui nous frappe un peu sur le moment.
Abaoud et son complice commencent par revenir à pied dans Paris. Lorsque la BRI donne l'assaut au Bataclan, ils ne sont pas très loin dehors. Puis, ils disparaissent. Après avoir déposé les 3 kamikazes du Stade de France, Salah Abdeslam abandonne sa voiture dans le nord de Paris, place Albert Kahn, un endroit qui n'est pas touristique, pas très fréquenté le soir. Le communiqué publié le lendemain par le groupe État islamique évoque un attentat dans le 18e arrondissement. Il n'a pas eu lieu. Est-ce que Salah Abdeslam a renoncé ? Aujourd'hui encore, on n'a pas de certitude. Les terroristes ont laissé devant le Bataclan une autre voiture de location belge. L'enquête s'oriente vers Bruxelles.
J'envoie un premier message à 22h59 à François Molins. Évidemment, nous sommes tous impressionnés par ce qui se passe à Paris.
Frédéric Van Leuve est le procureur fédéral de Belgique.
Et vers 2h40, François me répond, me parle d'un bilan très lourd, une voiture utilisée par les terroristes avec une plaque d'immatriculation belge. Et c'est le début de la grosse mobilisation chez nous, puisqu'on se rend compte alors qu'il y a un élément belge dans l'attaque à Paris.
Mais pendant la nuit, la voiture du Bataclan n'est pas fouillée à fond. Le contrat de location au nom de Salah Abdeslam n'a pas encore été retrouvé dans la boîte à gants. Le jeune homme appelle des amis qui viennent le récupérer près de Paris. Le matin, sur l'autoroute, ils sont contrôlés par des gendarmes, mais Abdeslam n'est pas encore recherché. Il se fait déposer à Bruxelles et s'évanouit.
Au début, il est très compliqué et c'est normal dans une phase de crise d'avoir les bonnes informations. Donc moi, je demande évidemment le numéro de plaque, mais je ne l'ai pas tout de suite, même s'il est transmis entre différents services de police. Et puis, assez rapidement quand même, on identifie la voiture qui est remontée vers la Belgique. Et dans l'après-midi, cette voiture est interceptée. Mais comme tout le monde le sait, Salah Abdeslam n'est plus dans la voiture.
Pendant 4 mois, les membres de ce noyau terroriste sont traqués. Et lorsque les derniers sont sur le point d'être arrêtés...
Et un seul titre, bien sûr, dans ce journal de la Belgique. De nouveau, en alerte de terroriste maximum, niveau 4, après un attentat suicide à l'aéroport de Zaventem, un peu après 8h ce matin. Attentat suivi d'explosion à la station de métro Malbec à Bruxelles. Les aéroports et les gares sont fermés, les transports publics sont à l'arrêt. Les Belges sont priés de rester où ils sont.
22 mars 2016, l'édition spéciale de nos confrères de la RTBF. Comme une réplique du 13 novembre, 3 hommes ont commis des attentats suicides à Bruxelles. Ils font 32 morts et 340 blessés. Quatre ans plus tard, en France, le procès des attentats du 13 novembre se prépare. Il va durer 6 mois. 14 hommes devraient être présents dans le box des accusés. Il y a près de 1700 parties civiles, des victimes ou proches de victimes. Toutes veulent savoir comment un tel carnage a pu se dérouler sur notre sol. Qui sont ces terroristes ? Comment en sont-ils arrivés là ? 4 ans après l'horreur, le dossier d'instruction comprend des centaines de milliers de pages, près de 500 volumes. Cette enquête, que j'ai suivie comme journaliste à France Inter, essaie de retracer le parcours de ces attaquants et de leurs commanditaires. C'est ce que je vais vous raconter, à ma manière, dans ce podcast.
Le NRV, la suite, France Inter, plus de 13 novembre, l'enquête, le podcast de Sarah Guibaudeau continue tout de suite. L'épisode 2 avec le portrait robot des terroristes, leur histoire, leur parcours, leur radicalisation.
Les trois hommes qui ont commis un carnage au Bataclan sont nés en France. Sami Amimour et Omar Mostefaï ont grandi en banlieue parisienne. Foued Mohamed Agad, le plus jeune, à Wissembourg, en Alsace. Des familles plutôt modestes, des familles musulmanes, mais pour deux d'entre elles, peu ou pas pratiquantes, au moment où leur fils se radicalise. Quand je me penche sur leur parcours et que je lis les témoignages de leurs proches, je me dis qu'avant de partir en Syrie, ils ressemblaient à beaucoup de garçons qui cherchent leur voie. Les deux premiers, peu diplômés, alternent des périodes de chômage et des contrats courts. Sami Amimour a passé son bac, section littéraire. Il s'est inscrit en fac de droit, mais il n'y est pas resté longtemps. Deux ans avant les attentats, il a 25 ans, il habite chez ses parents. Il est déjà connu de l'antiterrorisme depuis un premier projet de djihad pour avoir voulu partir au Yémen ou en Afghanistan. J'ai commencé par demander au juge Marc Trévidic, l'un des magistrats qui s'était occupé de ce dossier, s'il se souvenait de Sami Amimour.
Après ce qui s'est passé le 13 novembre, on repense à l'individu en question et on se dit comment est-il possible que quelqu'un qui payait si peu de mine se retrouve à faire des choses aussi horribles. Et puis la réponse, elle est de plus d'un an d'État islamique hein, en Syrie. Ça transforme un homme, très certainement. C'était pas le même au retour qu'au départ.
Deux jours après le 13 novembre, le père de Sami Amimour est interpellé. C'est le cas en général pour les proches des personnes impliquées quand il y a eu un attentat et que la police cherche à recueillir des éléments très vite. En garde à vue, Hasdine Amimour apprend que son fils était l'un des terroristes.
Premier interrogatoire, deuxième interrogatoire, le matin, l'après-midi et tout ça. Et puis après, j'ai été reçu par les procureurs. Et c'est là où j'ai appris que Sami était impliqué. J'arrivais pas à réaliser. Il m'a posé une question, où est-ce qu'il est votre fils? Je dis, mais il n'est pas là, vous le savez autant que moi, il est parti en Syrie. Non, votre fils, il est mort au Bataclan. Je dis, c'est pas possible, au Bataclan. Il était fiché, mais comment il est rentré?
Le père de Sami Amimour vit entre la Belgique, où il tient un magasin, et la région parisienne. Sami Amimour a grandi surtout avec sa mère, auxiliaire de vie scolaire, et ses deux sœurs. Il est l'enfant du milieu, une place difficile selon sa mère. Ils vivent à Drancy, en Seine-Saint-Denis, un quartier qui aujourd'hui semble tranquille. Il l'était moins il y a 10 ans, paraît-il. Le père, Hasdine Amimour, était souvent absent, mais il estime que son fils n'a manqué de rien.
J'arrivais pas à réaliser, j'étais entre la tristesse, la colère. J'ai pensé à une certaine ingratitude aussi. On lui a tout donné. Il a eu une enfance vraiment paisible, heureuse. Il a eu des vacances, tout, il manquait de rien. On ratait jamais la fête de l'humanité.
Ce sont les propos d'un père, bien sûr. Je m'efforce aussi de m'appuyer sur des éléments vérifiables, sur ce qui est conforté par d'autres témoignages.
Il a eu tous ses examens du premier coup. Il s'est inscrit en droit. Et puis il est resté à peine une année. Ça l'intéressait plus, donc il a arrêté. Puis 2012, c'était l'année où vraiment il a commencé à plonger. Mais il faut dire que ça a été fait d'une façon vertigineuse quand même. Il était tout le temps sur son ordinateur. Déjà qu'il était introverti, donc ça s'est accentué un petit peu. Et il commençait à être difficile, vraiment très avare de réponses. Donc quand on essayait de lui poser des questions, il répondait pas. Et moi, je voulais pas trop l'ennuyer avec mes questions parce que j'avais peur d'une certaine rupture. Quand je suis allé avec lui à la mosquée pour voir, mais dès que j'arrive à la mosquée, lui avec ses copains, moi je vais prier tout seul. Moi, il n'avait pas de barbe parce qu'il était un peu imberbe, une petite barbichette comme ça.
Sami Amimour a commencé petit à petit à faire la prière au collège, mais la religion occupe désormais une grande place dans sa vie. Pour garder le lien, Hasdin Amimour se met lui aussi à étudier l'islam qu'il ne pratiquait pas. Il essaye à sa manière de détourner son fils de l'extrémisme.
Dès que j'ai commencé à voir qu'il s'intéressait à Oussama Ben Laden et tout ça, donc j'ai essayé de parler avec lui parce que je sais qu'il n'était pas stable. Et puis je ne me suis pas trompé parce que quelques mois après, il vient me dire « Oh, tu sais, Ben Laden, c'est un type de la CIA. » Puis c'est là où ça a commencé, son désir de voyager donc en Afghanistan. Puis petit à petit, j'ai essayé de le détourner, puis il a compris. Ben, quelques mois après, il est revenu pour me dire « Voilà, j'ai trouvé un endroit formidable. C'est pas cher et tout ça. » J'ai dit ben, « C'est où ?» Il m'a dit « L'Égypte. » Là, j'étais très content.
Pour Hasdin Amimour, choisir l'Égypte, ce serait le signe que son fils revient à un islam moins radical. Pourtant, de nombreux djihadistes ont commencé par suivre des cours d'arabe et de religion dans des instituts du Caire. Mais à ce moment-là, les services de renseignement pensent plutôt que Sami Amimour veut partir en Afghanistan ou au Yémen. Le 16 octobre 2012, les policiers décident de l'interpeller.
7h du matin, ils ont défoncé la porte, ils rentrent, et puis moi je venais de rentrer de Belgique. Je comprenais pas, mais comme il y avait pas mal de dealers dans le quartier, bon, ils les fréquentaient pas, donc je me disais tant mieux. D'ailleurs, j'avais posé la question à un policier, je dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est une question de drogue? Il m'a dit non, c'est pire que ça. Donc je n'avais pas compris. Et puis juste en sortant, il me voyait menotté avec ma femme, dos à dos. Et c'est là où il a eu vraiment un choc. Il m'a dit « Papa, je n'ai rien fait de mal. »
Pour avoir voulu partir faire le djihad, Sami Amimour est donc mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes avec deux de ses amis du quartier. Mais pour Marc Trévidic, l'un des juges d'instruction chargés de ce dossier, leur projet est vraiment très flou.
Lui et les deux autres, ce sont des petits poussins quoi du djihadisme. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'aller faire le djihad, mais enfin, ils savent pas comment y faire. Ils ont aucun contact. Ils essaient d'avoir un visa pour le Yémen. Enfin, des choses complètement surréalistes. Et finalement, ils abandonnent, apparemment.
Ils ont quand même fait un entraînement aux armes dans un club de tir parisien.
Exactement, oui. Ils ont fait 2-3 initiations, comme beaucoup à l'époque. En fait, c'était un peu l'idée que on sait pas trop ce qu'on va faire, mais il faut se préparer pour le djihad, éventuellement. Voilà, faut être prêt.
Sami Amimour et ses amis sont jeunes, ils n'ont pas de casier et prétendent avoir renoncé à leur projet. Ils sont remis en liberté sous contrôle judiciaire et se font oublier quelque temps. Sami Amimour devient chauffeur de bus à la RATP jusqu'à ce qu'en 2013, la guerre en Syrie relance ses velléités de départ. Son père le confirme, il a trouvé une cause.
Déjà, il était porté sur la collecte des habits et tout ça. Pour envoyer en Syrie via des gens qui font la navette, là. Une fois, il avait les larmes aux yeux, il regardait, il me dit « Mais papa, regarde ce qui se passe, ils sont en train de déchiqueter des enfants. » Il était très absorbé par ce côté humanitaire et ça lui a pris la tête.
Internet, des amis du quartier, Hasdin Amimour ne sait pas précisément comment ou par qui son fils a été influencé. Pour le troisième terroriste du Bataclan, l'Alsacien Foued Mohamed Agad, on n'en sait plus. Son grand frère et un groupe d'amis d'enfance se retrouvent régulièrement pour jouer au foot. Ils écument les bars à chicha et sur les écrans de télévision...
La ville de Homs est pratiquement rasée aujourd'hui. Ces images amateurs tournées dans la ville de Kfar Zeita montrent des civils sous assistance respiratoire après une attaque au gaz chloré il y a 2 jours.
Les amis de Strasbourg ne se contentent pas des médias traditionnels. Sur Internet, ils découvrent la propagande des djihadistes.
Il est encore temps pour les musulmans d'ouvrir les yeux et de rejeter les informations provenant des koufars.
L'homme qui appelle ici à rejeter les informations des koufars, des mécréants, s'appelle Mourad Fares. Il est originaire de Haute-Savoie et il recrute pour le djihad. Et pour des jeunes qui cherchent leur place dans la société, en particulier des jeunes issus de familles musulmanes ou attirés par l'islam, il a un message.
Le grand âge d'or de l'islam est de retour.
En 2013, Mourad Fares est l'une des stars de la djihadosphère, cette partie d'Internet et des réseaux sociaux qui fournit des arguments pour le djihad. Avec son ami Omar Homsen, il bricole des vidéos soignées à partir d'images d'actualité, d'extraits de films et de textes religieux. Elles enregistrent des centaines de milliers de vues. Il est question des origines de l'univers et de la fin du monde, du complot des puissances occidentales ou des juifs, et d'une nouvelle terre sainte à rejoindre, la Syrie, qu'ils appellent le Cham.
à tous nos frères et sœurs fidèles. Allah leur commande de quitter la terre des mécréants.
L'objectif, c'était de défendre la population qui souffrait des attaques de Bachar el-Assad.
Mais pourquoi ? Parce que vous vous identifiez à eux comme musulmans ?
J'étais nouveau musulman et ils m'ont fait m'identifier à eux. Et en fait, ils m'ont fait croire que je pouvais me rendre utile là-bas comme musulman. Et même petit à petit, dans le lavage de cerveau, ils m'ont fait comprendre que je devais partir là-bas les rejoindre, que c'était mon devoir moral.
L'homme que vous entendez est parti faire le djihad exactement à la même période et avec le même recruteur que le groupe de Strasbourg. Ils se sont croisés sur place. Il préfère rester anonyme, je vais l'appeler Romain. Depuis qu'il est rentré, Romain raconte son expérience en Syrie pour faire de la prévention. Issu d'une famille catholique suisse, Romain s'est converti à l'islam 6 mois avant de partir en Syrie, en pleine guerre civile.
Sur le moment, j'étais pas très bien, j'étais déprimé pour différentes choses dans ma vie, des projets qui marchaient pas. Et en parallèle, j'ai passé beaucoup de temps chez moi, à contacter ces gens-là, à regarder des vidéos qu'ils m'envoyaient.
Quel genre de vidéos ?
Des vidéos qui promouvaient leurs actes, qui promouvaient une certaine violence. Quand on est nouveau dans l'islam, on se pose plein de questions. Et à la mosquée, on nous dit que tout est écrit dans le Coran, que c'est la vraie parole sainte. Et en fait, ils ont fait des vidéos qui sont censées répondre à nos questions. À quel niveau on peut mettre nos projets personnels en opposition avec ce devoir d'aider les autres musulmans ? Ils m'ont même dit d'arrêter de fréquenter la mosquée.
Romain est donc en contact avec le recruteur, Mourad Fares. Mourad Fares ne se contente pas de prêcher sur Internet. Il sillonne la France pour achever de convaincre des jeunes, comme ceux de Strasbourg, les amis du foot et de la chicha. Foued Mohamed Agad, lui, est alors installé dans la région de Toulouse. Il a 20 ans, il enchaîne les contrats en intérim dans le bâtiment. Il n'a pas réussi à intégrer l'armée ni à entrer dans la police. Parmi ses amis là-bas, cette jeune femme se souvient bien de la transformation qui s'est opérée quand le jeune homme a rencontré Mourad Fares.
Il m'appelle et il me raconte qu'il a rencontré Mourad Fares. Il lui a ouvert les yeux, qu'effectivement en France, on ne lui avait donné aucune chance, que ce soit l'armée, que ce soit la police, que ce soit au niveau de ses intérims, qui n'a pas abouti par un CDI comme il l'attendait. On lui a dit qu'en France, il ne servait à rien et qu'il n'avait aucun avenir. Par contre, en tant que djihadiste en Syrie, il avait un bel avenir, et en plus, le paradis l'attendait.
Ça veut dire que dès ce moment-là, Foued Mohamed Agad se sent prêt à mourir ?
Ah oui, mais vraiment, un changement radical. Il m'avait appelé le lendemain, ils ont fait une nuit blanche. En une nuit, il a réussi à lui remonter le cerveau. C'est-à-dire que Foued n'a pas eu une bonne relation avec son papa, et depuis le sermonnage de Mourad Fares, il le considère comme quelqu'un, en gros, qui serait son tuteur au niveau de la religion. J'avais l'impression qu'il se sentait obligé de partir là-bas pour faire accéder sa famille au paradis, parce qu'il savait vraiment que toute sa famille n'était pas du tout dans la religion musulmane. Il avait le droit, bien évidemment, de ramener 70 personnes s'il mourait en martyr.
Et s'il meurt en martyr, il peut intercéder pour sa famille au paradis, c'est ça ?
Exactement. Et en plus, c'est comme un enfant devant un jeu vidéo. Il fallait absolument qu'il tue tous ses ennemis. Il se voyait déjà en train de tuer des militaires français, américains ou j'en sais rien. Maintenant, grâce à l'islam de Mourad Fares, je vais avoir enfin un objectif dans ma vie. Foued n'a même pas ouvert le Coran. C'est-à-dire que Mourad Fares a dit « c'est cité dans... » Mais il n'a jamais ouvert le Coran.
À l'automne 2013, Foued Mohamed Agad se retrouve une nouvelle fois sans travail. Sa petite amie le trouve de plus en plus violent. Il exige qu'elle porte le voile. Il coupe les talons de ses chaussures. Elle finit par le quitter. Le recruteur Mourad Fares, lui, vient de partir en Syrie. Il pose sur Facebook armé jusqu'aux dents et poste des photos de la belle villa qu'il occupe avec sa brigade de francophones. Il fait la promotion d'un djihad 5 étoiles.
Sont une armée de moudjahidines, rien ne les arrêtera jusqu'à reconquérir Jérusalem en y plantant le drapeau noir du Tawhid.
Aller faire le djihad devient alors plus facile que lorsque Sami Amimour, à Drancy, s'imaginait au Yémen ou en Afghanistan. Les magistrats du pôle antiterroriste, comme Marc Trévidic, commencent à voir des jeunes Français partir par dizaines.
Il y a eu l'appel d'air incroyable du califat qui a incité beaucoup de gens et beaucoup de profils différents à partir là-bas. Et là-bas, ils deviennent, pour certains d'entre eux, très dangereux. C'était beaucoup plus compliqué d'aller au Yémen, quand même votre sacrée volonté. Ce qui a beaucoup changé, c'est que des gens qui étaient relativement indécis se sont retrouvés face à une situation où ça devenait facile. Pour 230 euros, on arrive en Turquie, et on est pris en charge, et puis à l'époque, les Turcs laissaient passer tout le monde. Et donc, ceux qui n'étaient pas très doués, qui n'avaient pas la volonté suffisante pour faire des choses très très dures, du style marcher dans la neige, là, ont eu un terrain de jeu extraordinaire.
Et ils ne sont pas seuls. Sur Internet, rencontrer d'autres candidats au départ n'a jamais été aussi facile. C'est ainsi que Sami Amimour, de Drancy, aurait noué le contact avec Omar Mostefaï, à Chartres. Ismaël Omar Mostefaï, qui se fait appeler Omar, a grandi à Courcouronnes, au sud de Paris. En échec scolaire, il a été condamné 8 fois pour des vols, des violences, pour détention de stupéfiants ou conduite sans permis. Rien qui ne justifie de l'envoyer en prison. Mais c'est peut-être pour l'éloigner du quartier que la famille a déménagé à Chartres quand il avait 20 ans. Son père pratique un islam assez strict, il est proche d'un courant fondamentaliste, mais pas djihadiste. Omar Mostefaï a appris le métier de boulanger, mais en cette fin d'été 2013, il est au chômage. Il s'est marié avec une cousine venue d'Algérie. Ils viennent juste d'avoir un deuxième enfant. En septembre, il a dit à sa famille qu'il allait travailler à Dubaï. Quant à Sami Amimour, il a serré son père dans ses bras en disant qu'il partait pour des vacances au soleil.
Il a commencé à acheter des affaires. Il a dit à sa mère qu'il va aller avec ses copains dans le sud, passer quelques jours de vacances. Elle m'appelle 24 heures après pour me dire, il a appelé en disant « c'est pas la peine de me chercher, je suis en Syrie ».
Marc Trévidic, vous vous souvenez de ce départ ?
Oui, j'en souviens très bien parce que j'avais convoqué pour un interrogatoire l'un des trois et il n'est pas venu. Et donc j'ai appelé le commissariat et là j'ai appris avec stupeur que ça faisait longtemps qu'il ne pointait plus au commissariat.
Le 6 septembre 2013, Sami Amimour est entré en Syrie avec Omar Mostefaï. Foued Mohamed Agad part en décembre avec son grand frère et ses amis de Strasbourg. Ils sont 10 à partir par petits groupes pour ne pas attirer l'attention. En voiture ou en train jusqu'à Francfort, c'est selon, puis l'avion. D'après cet ami, ils auraient eu en Turquie un moment d'hésitation.
En fait, avant de partir, ils se sont posés en Turquie, il me semble, dans une chicha. Ils se sont dit, mais on est fous d'aller là-bas. Vous imaginez, les gars, ce qu'on risque de perdre? Mais comme ils avaient fait les fous, il me semble que son frère, il avait grillé je sais pas combien de feux, il avait je sais pas combien d'amendes parce qu'il faisait le malin. Il s'est dit, ouais, c'est bon, en gros, nique la France. Hein. Il s'est dit, bon, mais vas-y, maintenant que j'ai fait n'importe quoi, on va voir de nos propres yeux, on va voir si les journalistes ne nous mentent pas. On va voir ce que donne la Syrie.
Ils vont tous être accueillis en Syrie par un groupe armé dont seuls les spécialistes connaissent alors le nom, l'État islamique en Irak et au Levant.
C'était le NRV France Inter Plus de 13 novembre, l'enquête signée Sarah Guibaudot. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais vous pouvez d'ores et déjà retrouver la totalité de la série en 9 épisodes sur franceinter.fr. Demain, ce sera une plongée dans le processus de recrutement de cette organisation avec un ancien djihadiste. Je vous souhaite le bonsoir.